je prends la parole quelques instants, comme ça les laisse le temps d'arriver. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau café débat intitulé cette fois-ci « La nature en ville, une utopie ». Programme que vous pouvez prendre devant la salle. Cet été a été très chaud, très sec. Et s'il y a des citadins parmi vous, je pense que vous nous direz sans hésitation que finalement d'avoir un petit peu de verdure et quelques points d'eau en ville, c'est quelque chose de salutaire. Pourtant, en ville, historiquement, elles se sont construites, on va dire, contre la nature, pour s'en protéger. Et d'ailleurs, quand on parle d'urbanisation, de bétonisation, on parle de progrès et de modernisation. Donc du coup, quand on pose la question « réintroduire la nature en ville », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mettre un peu de vert ici ou là, ou est-ce que c'est un vrai, véritable changement de paradigme pour les urbanistes? Donc ce sont ces éclairages et les questions qu'on va vous poser pendant une petite heure. Donc si vous connaissez le concept de nos cafés scientifiques, pendant une demi-heure, nos invités vont vous présenter, vous exposer les tenants et aboutissants de ce sujet, et on garde la demi-heure suivante pour échanger et débattre avec eux. Merci infiniment d'être venu. Je vous présente Monsieur Pascal Blachier. Donc vous êtes délégué régional Syntec Ingénierie. Et Monsieur Jean-Alfredo Albert, paysagiste concepteur au LASTEPT 73. Merci d'être présent. Et je vous laisse la parole pour présenter le sujet. La nature en ville, une utopie.
Cette présentation rentre dans le cadre de Chambéry Ville Perméable, dans la démarche du programme Chambéry Ville Perméable, et du coup est accueillie par le programme Entre Midi et Sciences. Donc le thème, le sujet qu'on avait à traiter, c'est ça, c'est effectivement le titre un peu attractif, c'est cette ambivalence entre utopie, la nature en ville, mais effectivement le constat, c'est ce qui vient d'être dit, on est allé très 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 loin dans l'urbanisation et dans l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols en ville, donc ce modèle est questionné. Donc voilà, les questions, c'est est-ce qu'on peut intégrer plus de nature dans la ville? Et est-ce qu'on peut retrouver, ou en tout cas accueillir de la biodiversité en milieu urbain? Et on terminera par ce sujet-là, le sujet important en tout cas qui est traité par Chambéry Ville Perméable, qui a un double objectif, plus d'eau et plus de biodiversité. C'est effectivement la place de l'eau dans la ville de Chambéry ou dans la métropole qui est extrêmement importante, puisque ça sous-tend justement toute cette biodiversité et cette vie.
Donc, moi, je vais vous présenter à la manière du paysagiste concepteur ce que je perçois du traitement de la diversité dans les interstices de la ville, et puis ensuite essayer d'aller vers du positif, ou en tout cas vous présenter ce vers quoi on pense que c'est mieux de tendre. On vous met en garde parce qu'il y a peut-être des satires ou des choses potentiellement choquantes, mais qui sont là pour éveiller la curiosité et animer le débat. Des dessins que j'ai faits, des dessins récoltés.
Oui, puis on est tous les deux habitants et amoureux de cette région, donc c'est parce qu'on aime Chambéry. Donc ça, c'est le plan de la présentation. Non, je rigole. C'est effectivement pour dire que ça fait vraiment débat, parce qu'effectivement, les sondages, c'est un Français sur deux pense que la ville du futur sera verte. Ça veut dire qu'il y en a quand même un sur deux qui dit que non, il préfère habiter dans une ville artificielle, en tout cas. On peut en discuter. Mais le CEREMA, c'est l'Institut d'ingénierie nationale, qui, effectivement, sur la question de la nature en ville, a fait un petit schéma qui explique toutes les conséquences et toute la décomposition de toutes les problématiques entre la nature sauvage, la nature entretenue du jardin, et puis la nature aménagée, exploitée, pour qu'on en tire des bénéfices. Donc c'est un vrai sujet scientifique et technique, justement, d'intégrer la nature en ville. C'est ce qu'on va essayer d'évoquer un peu avec vous.
Donc aujourd'hui, c'est... le regard sur l'accueil de la diversité du vivant en ville est difficile. On va vous présenter quelques constats après. En tout cas, mon point de vue de ce pourquoi, en tout cas, c'est nécessaire d'avoir du vivant, en tout cas de la diversité à proprement parler. J'évite de parler de nature, justement, pour pas être dans le générique, mais pour être dans les choses qu'on n'aime pas forcément. Donc pourquoi habiter avec la diversité du vivant dans nos paysages du quotidien que sont la ville? Ma réponse, en fait, c'est de dire que si on veut une société moins délétère, et plus écologique, entre guillemets, il y a besoin de se confronter aux vivants qu'on n'aime pas. C'est pour ça que, pour moi, c'est nécessaire de les avoir en ville pour générer des relations avec, donc un attachement, entre guillemets, une connaissance, et enfin aboutir à savoir quelle place leur laisser pour qu'eux puissent vivre, vu que c'est nécessaire.
Et ouais, effectivement, dans les médias, vous avez quand même aujourd'hui une tendance forte à vous balancer à peu près tout et n'importe quoi. Donc l'image spectaculaire qui va vous dire que tous ces invasifs vont vous attaquer et vous faire mourir. Donc c'est effectivement de l'ignorance crasse qui a pour objectif de générer du trafic sur Internet et d'alimenter de la publicité et du business. Donc aujourd'hui, en fait, on a appelé ça les fake news. Aujourd'hui, la fake news majeure, ce serait de dire que il y a une bonne biodiversité et une mauvaise biodiversité. Enfin, ça serait le refus total de l'altérité, qu'elle soit humaine, végétale ou animale. Il y a un vrai souci par rapport à cette polarisation. Ouais.
Voilà, le gros sujet qui sont les plantes invasives. Quand on constate voilà, les coteaux plein sud des Bauges au mois d'août, les seules plantes qui restent vertes et qui font de l'ombre, c'était les élantes et les robiniers, Focaccia, qui sont donc deux plantes considérées comme invasives aujourd'hui. Donc la question qu'on pose, c'est voilà, si c'est les seuls à survivre à nos climats arides du mois d'août, et qu'on dit qu'il faut toutes les exterminer, ça pose question.
Oui, la renouée, elle occupe des niches écologiques, effectivement, on lui a libéré. Effectivement, il faudrait faire un café débat et puis plusieurs conférences sur la problématique des plantes invasives, effectivement, mais on est confronté à un certain nombre de forces et de puissances qui se déploient sous nos yeux. Donc, encore une fois, c'était juste pour illustrer que est-ce qu'on veut vivre dans un monde binaire où tout s'oppose, la renouée contre le pissenlit, l'élante contre le hêtre. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu trop simpliste d'avoir cette vision-là. Et puis, effectivement, juste derrière, se pose aussi la question de l'ordre social, de l'ordre public, de comment vivre les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Est-ce que tout le monde doit être strictement égal, avoir exactement la même chose que l'autre ? Voilà, donc c'est des petites caricatures qui montrent, qui poussent à l'extrême ce qu'on vit au quotidien, hein, voilà, dans nos espaces urbains.
Bon, malgré tout, on a dans nos espaces urbains voilà, des lieux de diversité qui ont un potentiel puissant, c'est-à-dire la laisse, qui se confronte malgré tout à... Voilà, on voit bien sur cette photo cette binarité dont parle Pascal, où voilà, d'un côté on a des jardinières donc arrosées tous les jours avec des végétaux choisis, où il n'y aura jamais une autre espèce dans ce petit bac arrosé voilà, au mois d'août, alors que on a une ressource juste à côté, vraiment en parallèle, qui semble être celle qu'il faut donner à voir plutôt que voilà, plutôt que ces petites jardinières peut-être.
Mais bon, vous prenez conscience, en tout cas si vous voyagez, que, en tout cas Chambéry, pour le coup, nos espaces naturels et nos espaces urbains sont d'une grande richesse et d'une grande qualité. On peut toujours faire mieux, c'est clair, mais moi, pour me balader un petit peu partout en ce moment, et puis Jean-Alfredo aussi traverse un peu la France en diagonale ou en d'est en ouest, on a une énorme chance ici d'avoir des paysages, en plus qu'on valorise, puisque c'est une de nos ressources principales, le tourisme. Donc on a cette double volonté d'améliorer nos espaces pour nous et pour les gens qu'on accueille. Donc c'est une photo ancienne, voilà.
C'est une photo de cette année. Il y a eu un chevauchement. mais voilà, quand on va observer les interstices, en tout cas, où les plantes spontanées ont la possibilité de pousser, il y en a. La question ensuite, c'est est-ce que c'est grave, pas grave, qu'est-ce que ça fait à l'œil et pourquoi il y a... toute une énergie méticuleuse et coûteuse pour l'enlever. On va le voir dans les images d'après. Donc là, c'est juste le canicite de Barbera, où finalement, il y a de la saponaire qui a colonisé tout l'espace. Parce qu'on ne l'a pas touché, parce qu'il n'y a aucun service technique qui...
Et parce qu'elle avait beaucoup d'engrais qui lui convenaient tout à fait. Et...
Pareil, mais bon, voilà ce qu'on observe à Chambéry. La question des interstices qui sont... Donc, on voit dans toute la périphérie de Chambéry, tous ces interstices où les espèces végétales peuvent pousser sont plus larges. Et plus on rentre dans de l'urbain, plus ces interstices sont tout petits, en fait. Et ça se passe sur la rainure entre différents matériaux du sol. aujourd'hui on les enlève, mais à quoi bon enlever des annuels et des bisannuels
Voilà. Enfin, en tout cas, la question se pose, mais c'est un double problème, un problème multiple, hein, d'esthétique, de gestion de l'eau, de gestion de l'imperméabilisation, de gestion des pieds de mur du bâti ancien, de gestion du confort urbain, de tout un tas d'éléments. Parce qu'effectivement, la vie ne veut pas s'arrêter, mais là, à la fin du XXe siècle, on était sur des paradigmes où on bétonnait deux pieds de façade à pied de façade de manière totalement exhaustive. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous avez sous les yeux. Alors, on a pris des images de Chambéry, encore une fois, mais c'est partout dans l'espace urbain en France et en Europe civilisée, entre guillemets. Hein, voilà. Et donc, les pluviales que vous voyez descendre, eh ben, elles s'enfoncent sous terre, on ne sait où. Mais sauf que ben là, on a quand même un revêtement souple, hein, qui est du bitume, qui réagit beaucoup plus souplement que les façades elles-mêmes. Et donc, inévitablement, c'est un combat perdu d'avance, on aura toujours du végétal qui va se glisser dans l'interstice entre le pied de mur et le trottoir. Du coup, est-ce qu'on vient le couper? Est-ce qu'on vient considérer que c'est une nuisance majeure? Ou est-ce qu'on a des conceptions d'espace urbain qui peuvent être différentes pour laisser un peu de place à tout le monde?
C'est le syndrome de « il faut faire propre » ou « ça va faire sale ». Si on va juste un peu plus loin, en fait, c'est la considération du végétal ou de l'altérité comme un sujet et plus comme un objet. Voilà, je vous ai mis la photo de. Donc on est à Carrefour Champ Nord où voilà, les prises sont accrochées à des pieds d'arbre. En fait, c'est pour moi là, vraiment l'objet arbre est un objet pour celui qui a attaché la prise et pas un sujet en tant qu'individu. Donc il y a aussi la question des spécialistes de l'aménagement. Donc là, ça se passe sur les berges de la Lesse au bord de la piste cyclable où donc il faut revégétaliser ces berges. Une rivière doit être couverte en majorité, donc avoir son petit toit au-dessus de canopée. Donc voilà, je ne sais plus qui, mais l'organisme en tout cas a des scientifiques, des écologues ou des ingénieurs ou des personnes qui ont réfléchi, qui ont fait des études et qui donc définissent comment planter les végétaux sur les bords de la Lesse. Et finalement, au mois d'août, tous les végétaux sont cramés. Tous. Donc est-ce qu'on aujourd'hui, voilà, c'est un peu la question de, on veut maîtriser la plantation de ces sujets, mais on n'y arrive pas. Donc quel est notre degré de maîtrise ou de volonté de maîtriser? Parce qu'il y a d'autres solutions qui font pousser des plantes sans avoir besoin de planter tout en temps. Voilà, bref.
Ouais, effectivement, sur cette ingénierie du végétal, qui est relativement récente, elle date de la fin des années 90. On a commencé à parler. L'environnement n'a plus été un gros mot dans le monde économique à partir du début des années 2000. Et donc, effectivement, l'ingénierie qui aménage l'espace, qui, pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, a aménagé de l'espace en utilisant du minéral et de l'artificiel. Et ça, on maîtrise bien, parce que c'est un truc de matheux. Hein, on concasse du béton et puis ça tient bien, c'est horizontal, ça ne bouge plus pendant 30 ans. Et donc depuis un certain nombre d'années, on se préoccupe de mettre un petit peu plus de végétal. Donc on convoque les paysagistes dans l'aménagement urbain. Et donc il y a un double problème. Il y a ce qui est à droite, c'est un problème d'échelle. Est-ce qu'on travaille sur un micro-truc pour se faire plaisir ou est-ce qu'on travaille à l'échelle sur une emprise qui a du sens? Et puis à gauche, il y a un problème de totale incompétence. Et parce qu'on ne traite pas du vivant comme on traite du matériel et des objets. Concrètement, enfin très clairement, et ça m'est arrivé d'avoir à l'expliquer à mes collègues dans l'ingénierie, c'est que sur un chantier, vous faites livrer une palette de parpaings, vous pouvez la laisser tout l'hiver dehors, sauf si vous en faites piquer un ou deux, il ne se passera rien. Par contre, si vous faites livrer des arbres, ce n'est pas la même chose. C'est un être vivant que vous devez, pour lequel vous devez avoir du soin en permanence chaque seconde. Il faut l'arroser, il faut le mettre à l'ombre, voilà. Donc c'est pas du tout le même monde. Et là aujourd'hui, on est dans une transition pour le coup dans l'acte d'aménager l'espace public où on a besoin d'apprendre ou de réapprendre comment on traite le vivant dans tout ça. Non.
C'est les applaudissements représentés par des textes. Donc voilà, la conclusion, c'est que de ce qu'on observe majoritairement, l'échelle est peut-être trop petite sur les lieux dans lesquels on essaye d'agir pour avoir un impact global sur la ville et qu'il y a différents syndromes, celui de « il faut faire propre », celui de l'aménageur qui pense maîtriser. Et ensuite, ça nous amène à vous présenter un des projets qui a ses défauts que j'ai pu faire avec l'atelier des Cairns en 2018 ou 2019. Nous sommes dans les Hauts de Chambéry, on a localisé des gazons dits inutiles, considérés comme des crottoirs à chiens Voilà, il s'est passé peu de choses d'observation. Donc on a fait à moindre coût des lieux d'accueil, ou en tout cas mettre en place les conditions pour qu'il se passe quelque chose d'autre. Donc on dessine une forme, on laboure et on fait notre semis. Mais voilà, les services espaces verts, l'entretien n'est pas forcément suivi. Et peu importe, notre semis est raté parce qu'il était trop tard. Mais qu'importe, en tout cas, voilà, il y a des choses qui ont poussé. Par rapport à un gazon monospécifique, on a aujourd'hui, je ne sais pas combien d'espèces végétales, je n'ai pas compté, mais un paquet. Et voilà, ces deux images qui se suivent, en fait, c'est l'année 1 et ça, c'est l'année 2 où la gestion a été arrêtée, complète. Mais donc, rien n'a été fait à l'endroit où on a semé et aujourd'hui, enfin, et donc il y a 2 ans, il y avait voilà, des grandes molènes et tout. Donc la question, c'est comment réussir à donner à voir de manière souhaitable cette diversité. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'aménageur, je me pose ces questions. Donc le fait de, voilà, de dessiner des cheminements, de bien faire propre les limites, c'est une des solutions qui me semble appropriée.
On va essayer de passer un peu plus sur les méthodes et les principes d'aménagement qu'on travaille ensemble. Donc on voit qu'effectivement, ça peut partir dans tous les sens. On a commencé à structurer ça et à donner un peu de, pour, en tout cas pour les espaces publics, des principes d'aménagement qui deviennent un peu des standards aujourd'hui. Donc Jean-Alfredo a dessiné 4 planches avec 4 degrés, enfin 0, 1, 2, 3, 4, même 5. Donc le premier truc relativement simple qui ne neutralise que quelques places de parking, voire aucune, c'est vraiment de travailler sur les interstices, c'est-à-dire tous les endroits qui sont inutiles. Et donc l'intérêt, c'est de réduire la surface imperméable, puisqu'on a du coup moins de ruissellement d'eau et puis les végétaux se nourrissent eux-mêmes. Donc ça, des arbres comme ça, ils ont une 30aine d'années, mais encore une fois, il y en a qui poussent très vite. Il y a des nouvelles espèces justement qui nous envahissent, qu'on peut tout à fait utiliser pour se faire de l'ombre sur les parkings à moindre frais, parce qu'elles poussent toutes seules. Voilà, donc il y a tout un travail justement pour récolter les eaux de ruissellement. Il y a des images qui circulent depuis quelques années de changement complet de paradigme d'urbanisme en Arizona, dans des endroits extrêmement arides, où ils se prenaient régulièrement des inondations catastrophiques qui embarquaient les voitures, qui dégradaient les rues. Ils avaient 30 cm d'eau pendant 15 jours, pendant 2-3 jours, c'était une horreur. Et donc ils ont redessiné, parce qu'il y en a un qui a osé le faire et qui a prouvé que ça marchait, ils ont redessiné des trottoirs avec des pièges à eau, et donc sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, ils capturent l'eau quand il y a des grandes inondations et des grosses pluies. Et du coup, sur les 11 mois qui restent de l'année, ben dans ces noues et dans ces bordures de trottoirs qui sont entre la zone où les piétons passent et la rue elle-même où les voitures circulent, vous avez des arbres, des cactus, du végétal, tout un tas de trucs. Donc ce principe-là fonctionne très bien. Après, effectivement, on peut aussi rentrer beaucoup plus fortement, et c'est presque de l'haussmannien plus, mais de rentrer sur une logique d'infiltrer l'eau des sorties de gouttières avec une fosse, et puis du coup on a un trottoir qui est protégé de la voirie, et on a presque un système un peu à l'américaine, sauf que du coup on a des R+3, R+4 français, mais où on a une bande de végétation mature dans laquelle on peut laisser quelques places aux voitures, mais on voit bien que les voitures, et à Chambéry on arrive quand même à vivre avec moins de places de parking qui occupent l'espace public, c'est des choses qui peuvent rentrer dans les mœurs doucement. Et puis c'est une ville qui peut être arpentée à pied, voilà. Donc il y a tout un travail qui peut permettre de libérer des places de parking. Donc ça, c'est degré 1, on peut avancer. Et après,
il y a d'autres degrés jusqu'au 4. On va juste vous faire balayer les images. De toute façon, c'est des images qui seront utilisées pour, si vous suivez, le deuxième atelier de la ville perméable de Chambéry. On pourra vous en parler après. Et voilà, le degré 1, c'est de rogner sur l'espace public pour donner de la place aux autres vivants. Donc on a vu qu'on pouvait piquer sur les places de parking. Ici, on est devant donc la base, le tiers-lieu de Chambéry. Donc il y a peut-être moyen de trouver en cohérence avec l'architecture patrimoniale comment voilà, peut-être ouvrir des fosses dans la longueur. Le degré 3.
Il n'y a pas deux solutions uniques. À certains endroits, on peut tout à fait créer les conditions pour que des grands arbres puissent prospérer. Et là, vous avez la diversité du vivant qui, justement, est extrêmement intéressante. C'est que vous avez l'arbre, où il est, combien il a d'eau, sur quel terrain il est positionné, quels sont les flux d'énergie et d'eau qui lui arrivent sur 365 jours, quelle est l'espèce de l'arbre en question, avec quel autre végétaux il vit, il interagit, avec quel champignon. Et après, dans les espèces d'arbres, comment il a grandi, comment il s'est développé, comment il a exprimé sa génétique. Donc, c'est pas du tout simple. Effectivement, la tarte à la crème, c'est de dire, bah non, on a un changement climatique, on va prendre cher, les grands arbres, ils vont tous crever. Ben, oui, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les arbres. Donc, il n'y a jamais de solution unique.
C'est très bien que vous interveniez et que vous nous coupiez la parole. Tout à fait. Et là, voilà, chaque projet ou chaque place d'espace public a sa spécificité. C'est-à-dire qu'il y a des usages, une fonction, des particularités qui vont faire en sorte, enfin, qui vont faire que on ne pourra peut-être pas installer toutes les strates végétales à ces endroits-là. Mais ouais. Dans l'idéal, oui, évidemment, pour une meilleure diversité écologique, il faudrait...
Alors, ici, c'est ce qui est écrit, c'est qu'effectivement, on ne peut pas non plus mettre de la végétation sauvage et foisonnante partout, sauf si collectivement, on le décide. Mais là, ouais. Mais là la retenue qu'on donne, c'est qu'effectivement, on considère qu'un espace comme ça, il a été conçu par des architectes, il a une valeur esthétique et patrimoniale. Et c'est là où on met le curseur en disant, ben non, celui-là, il a été dessiné pour un espace un peu majestueux, c'est un lieu, c'est une scène nationale, c'est un lieu qui est historique, patrimonial, dans lequel il y avait la caserne. Donc c'est peut-être pas celui-là, sauf si on veut faire quelque chose, si c'est une volonté, mais celui-là, a priori, nous, on n'aura pas tendance à dire que c'est celui qu'il faut végétaliser à fond. Et pour revenir sur votre remarque par rapport aux continuités écologiques, c'est-à-dire la liaison, enfin toutes les strates des animaux, des végétaux. Là, cette zone-là, en réalité, elle est juste à côté de nous. Elle est relativement isolée en termes de continuité écologique. Et on n'a pas forcément envie qu'à cet endroit-là, on ait beaucoup plus de circulation d'animaux. Voilà. Mais c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Et c'est justement de la prise en compte de tous ces facteurs qui peuvent être subjectifs, culturels, esthétiques, qu'on doit considérer. Ben, il faut, voilà, c'est exactement ça. C'est pour les différents types d'humains aussi qui vont occuper ou parcourir cet espace, de quoi on tient compte. Et effectivement, l'accessibilité au sens large, elle est importante. Enfin, c'est pour ça que tel que c'est dessiné, c'est. Voilà, je ne sais pas si on pourrait faire pousser des grands arbres comme ça, mais quoique, techniquement, c'est possible. C'est une proposition.
Non, c'est juste des images pour faire discuter, en tout cas faire avancer les débats. Mais c'est sûr que sur chaque projet, il y a différents enjeux, il y a différents types de personnes attachées au lieu, mais de manière différente, comme celui-là.
Oui, on n'a pas redessiné tout Chambéry. Et puis,
non. Voilà, on avance dans les degrés d'aménagement, et là, ce serait retirer plus de places de parking. On se rend compte, bon, là, c'est sûr que le milieu urbain est dépendant de ces zones d'activité autour, en tout cas, fonctionne comme ça. Et donc, les flaques d'enrobés sont monumentales, à Carrefour-Champs-Nord, toutes ces zones d'activité, à Bassin. Et donc, il serait peut-être temps de réfléchir à une nouvelle méthode pour ranger toutes ces voitures au moment où tout le monde vient acheter.
Oui, effectivement, j'ai constaté ça.
Vous parlez des pins de Carrefour-Bassin ? Les pins qui étaient sur le parking, en majorité. Mais c'est marrant, parce que quand on regarde juste une photo aérienne d'il y a 15 ans en arrière des pins, ils n'ont pas grandi, les pins, ils n'ont pas poussé. Ouais. Ils ont voilà. Donc c'est comment on fait en sorte que voilà, les végétaux soient à l'aise pour vraiment...
Alors, je ne sais pas, on va peut-être pas faire le procès des gestionnaires du parking Bassin, mais c'est clair qu'il y a un vrai sujet, il y a une vraie difficulté, il y a un travail qui a été fait... toute proportion gardée dans les communes par rapport aux végétalisations et aux arbres dans les cours d'école. Ça a été aussi très polémique et c'est un vrai sujet. Et ben dans les cours de nos centres commerciaux et nos parkings, ça se discute aussi. Bon, aujourd'hui, c'est clair que quelques mois dans l'année, quand on garde la voiture au soleil et qu'elle n'est pas à l'ombre, on prend cher. Du coup, on est obligé de démarrer le moteur à fond, d'allumer la clim. Ouais, c'est pas hyper... Donc ça, c'est les sols perméables, c'est des places de parking où effectivement l'eau de pluie s'infiltre. Donc c'est des solutions qui sont implémentées un peu partout, hein, qui commencent à être à peu près techniquement maîtrisées. Malheureusement, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, c'est assez difficile à faire, et mais ça marche. Stationner des voitures sur des zones perméables, c'est effectivement aujourd'hui pratiquement, je dirais, un standard. Oui, ça change pas forcément. Par contre, c'est dans la logique d'infiltrer le plus d'eau de pluie possible dans le sol tout de suite. Et si effectivement, du coup, avec une illustration comme ça, on voit bien que ce qu'on rechercherait, ce serait d'avoir des arbres qui fassent de l'ombre. Pour qu'ils puissent faire de l'ombre en période extrême, il faut qu'ils aient des racines et une réserve d'énergie suffisante. Donc ça veut dire que les places qui seraient autour des arbres ou dans la périphérie sous la couronne des arbres, ce seraient des places qui, de manière privilégiée, seraient perméables. Ou alors on crée tout un système de pente pour que toute l'eau vienne dans des fosses ou dans des nous. Voilà. Mais c'est tout un travail qui n'a visiblement pas été fait par les gestionnaires de Carrefour à Bassin. Et de l'autre côté, je pense que c'est guère mieux, mais il suffirait d'aller discuter avec eux pour voir exactement les tenants et aboutissants. C'est pas...
J'en ai pas mis d'exemple dans ce diapo, mais oui, il y a beaucoup d'agences de paysage qui travaillent sur le désaménagement justement de plusieurs places ou pleines d'enrobés. Voilà, donc
des grands parkings de zones commerciales, je sais pas, mais c'est un chantier qui, enfin, c'est des sujets qui sont en cours. Aujourd'hui, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a une réponse consiste à mettre des ombrières. C'est ce qui a été beaucoup mis, des ombrières solaires, des panneaux solaires, du photovoltaïque sur les parkings. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu en tête dans les réponses principales. C'est pas absurde, hein. Enfin, c'est ce qui a été fait à Botanique sur Chambéry. Je sais pas s'ils sont sur l'Aravoir ou voilà. Donc il y a la moitié du parking qui est très relativement arboré, on peut faire mieux, mais qui est relativement arboré, et l'autre moitié sur laquelle il y a une ombrière photovoltaïque. Le dégoudronnage du sol, ça reste encore compliqué, et c'est certainement pas... Partout où on fait circuler des véhicules lourds, aujourd'hui, la solution la plus simple, ça reste quand même de mettre du goudron. Le béton, il fissure, il coûte cher, et puis du point de vue du bilan carbone, il n'est pas génial. Et puis, moi j'en discute beaucoup avec nos collègues du BTP, mais aujourd'hui ils ont des réponses de béton bas carbone, enfin d'enrobé et de bitume bas carbone. Mais ce que les chimistes et les industriels nous disent par ailleurs, c'est que quand on sort du pétrole et qu'on le met dans la colonne de distillation, il sort du bitume, des paraffines, du diesel, du kérosène, du super, de l'essence, et donc avec une goutte de pétrole, on a 10 microgouttes de tous les produits. On ne peut pas dire je veux sortir que de l'essence, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, tant qu'on aura des carburants pour aller dans nos engins, dans nos camions et dans nos voitures, on aura tout dans des proportions qui seront impossibles à modifier, sauf à en consommer les trois quarts pour... En gros, vous pouvez effectivement chimiquement transformer du diesel en du super, mais ça va vous coûter la moitié de l'énergie qui est contenue dans votre diesel de recasser les molécules pour faire de l'essence. Donc physiquement, les processus de production nous conduisent à générer beaucoup de bitume. Et donc aujourd'hui, enfin, aller se taper la tête contre les murs à changer la filière qui nous fabrique tout le bitume qu'on utilise sur nos routes, oui, on peut peut-être y penser, mais ce n'est pas non plus primordial. Donc il y a tout un tas de flux physiques en amont contre lesquels il ne faut pas forcément se battre. Et donc effectivement, partout où on roule et partout où on continuera de rouler avec des véhicules lourds, la réponse technique la plus simple, c'est béton ou... Enfin, après, avant, les routes, elles étaient en cailloux, il y en a encore qui marchent. Mais les routes en cailloux, juste avec des pierres, des pavés, c'est compliqué à entretenir et c'est extrêmement sensible aux variations climatiques, l'hiver, l'été, le gel, le dégel, les petites plantes qui mettent leurs racines. Donc c'est un truc qui nécessite beaucoup d'entretien et qui ne marche pas dans tous les cas. Et parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a cherché à faire, encore une fois, c'est un truc, une fois qu'on l'a payé, il n'y a plus d'entretien. Donc si vous avez des pavés dans vos rues, l'entretien, ce n'est pas le même qu'un enrobé. Puis après, ça fait du bruit, voilà. On voit bien que la nuisance sonore, c'est un truc important. Donc voilà, c'est toujours, dès qu'on creuse et dès qu'on va un petit peu loin sur des sujets, on arrive à un niveau de complexité qui fait qu'il n'y a jamais de solution unique qui s'applique partout. Mais voilà, ça après... Voilà, donc le dernier sujet, voilà, la transition, c'est effectivement, on voit qu'aujourd'hui, et ça vous pouvez vous amuser à le regarder sur Géoportail, sur le site de l'IGN, il y a une partie qui s'appelle Remonter le temps, où vous avez les photos aériennes de toute la France, Et donc vous les regardez à partir des années, voilà, des années 40, 45, vous pouvez regarder Lyon, enfin, vous, et donc vous voyez progresser le paysage, et puis d'un seul coup, enfin c'est instantané quand on regarde l'évolution historique, vous avez d'un seul coup entre les années 55, enfin non, c'est plutôt au début des années 60, d'un seul coup vous voyez sur les plans l'espace public envahi, enfin en tout cas il y a tout un tas de petits parasites qui se posent là, vous avez des voitures qui commencent à venir partout, et entre les années 60 et les années 70, instantanément on a eu des voitures partout dans l'espace public alors qu'il n'y en avait jamais eu. Donc aujourd'hui on voit que les voitures, on ne va pas pouvoir les conserver dans l'état où on les a utilisées aussi longtemps qu'on le voudrait, le problème de pétrole, le problème de coût des voitures électriques, la difficulté, voilà. Donc ça veut dire peut-être qu'il faut qu'on se pose la question de réduire le domaine de la voiture, et ça c'est un des sujets dans toutes les villes. Les Hollandais ont fait un énorme travail ces 30 dernières années, ils sont très en avance sur nous, mais en France, Lyon, Strasbourg a été la première ville à mettre beaucoup moins de voitures et des vélos, et puis donc si on met moins de voitures, on peut mettre plus de végétal, plus d'usages diversifiés, une mobilité différente, etc. Donc c'est un vrai travail urbain.
Donc voilà, enlever la voiture, ça veut dire enlever des places de parking, ça veut dire à Chambéry libérer la Lesse, en fait, qui a 80% de son linéaire qui passe en ville, peut-être que j'exagère un peu, mais recouvert. Et aujourd'hui, voilà, si on est dans une dynamique de profiter de la fraîcheur et de ne plus subir les mois d'août, il y a peut-être, voilà, la question se pose. C'est sûr que c'est un projet gigantesque, c'est pas à l'échelle d'un seul mandat électoral, et il faut que les étoiles s'alignent pour que ça puisse être fait, mais en tout cas...
Oui, Jean-Alfredo redit ce que M. Chemetov avait dit il y a quelques années. Effectivement, le constat urbanistique que tout professionnel de l'urbanisme pourrait faire sur Chambéry, c'est de dire, bah non, faut découvrir la laisse en totalité, mais après du coup ça pose tout un tas de questions techniques. Alors il y a un travail qui vient d'être livré là, justement sur la partie couverte de la laisse qui avait été, dont le concept de couverture n'avait pas été vraiment modifié. Pour un certain nombre de raisons, il a été conservé, mais du coup là la ville ou la métropole, c'est pas qui est maître d'ouvrage de l'ensemble du réaménagement, mais vous avez des espaces publics Duc de Savoie sur la partie couverte de la laisse qui ont vraiment changé de physionomie, où on a inversé les priorités, vous avez quelque chose de très confortable pour les vélos, pour les transports en commun, et on contraint un peu plus la voiture. Donc toutes ces choses-là vont dans le bon sens. L'énorme difficulté technique qu'on a sur un espace de ce genre, c'est que ça reste une dalle imperméable sur une rivière, et donc les parties d'espace vert qui ont été dessinées vont faire partie des choses qui sont techniquement difficiles à entretenir, puisque par définition, il n'y a pas de réserve d'eau dessous, quoi. On est directement sur une étanchéité d'un ouvrage de génie civil. Donc c'est pas une réponse simple. Voilà. Donc ça c'est juste un petit clin d'œil de Jean-Alfredo sur oui, chacun son jardin. On a différentes manières de voir les choses. Chaque ville, chaque collectivité a un traitement de ses espaces paysagers. Et puis chaque individu est libre d'aménager son espace de vie comme il le souhaite. Donc ça c'est un peu... À Chambéry, la vie de jardinier, elle est très... Que ce soit la ville ou que ce soit les collectifs ou que ce soit les individus, ben on a une richesse assez énorme. On a une liberté, en tout cas, d'occuper, puisque ça, c'est un espace d'incroyable comestible. On en reparlera sur d'autres images. On a la liberté d'occuper certains espaces publics depuis quelques années avec des gens qui sont volontaires, qui sont pas en mode guérilla, mais qui sont dans une discussion ouverte et libre à échange avec la collectivité. C'est pas conflictuel, donc c'est quelque chose qui est à saluer, parce qu'à certains endroits c'est difficile, c'est un peu un dialogue de sourds. Donc là on est dans un environnement social qui permet effectivement d'expérimenter des choses. Et puis à gauche...
Et puis à gauche c'est juste une image de mon jardin. C'est-à-dire que voilà, c'est un fouillis végétal, mais que j'essaye d'organiser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement du vivant, qu'on a un lien avec lui et qu'on ne veut plus en fait le détruire, mais qu'on veut habiter avec, on rentre dans une forme de jardinage qui est consciente, c'est-à-dire qu'on voilà, on laisse la place aux espèces qu'on souhaite et on en enlève d'autres, mais très peu. Et voilà, dans le but de donner à voir quelque chose de tenable au regard des gens qui sont habitués au jardin qu'on a vu précédemment.
Alors, le système du permis de végétaliser, c'est quelque chose d'assez récent que certaines municipalités ont mis en place. Il y a un retour d'expérience qu'on peut faire sur Chambéry, puisque justement, ça fait plusieurs années que ça a été mis en place. Et la difficulté dans le monde dans lequel on vit, c'est une difficulté, pour le coup, juridique et foncière. Donc, en fait, derrière le permis de végétaliser, il y a une autorisation d'un tiers à exploiter ou utiliser ou modifier un espace public qui doit respecter un certain nombre de contraintes. Et donc, du point de vue technique, juridique, derrière, c'est un problème entre une personne morale ou une personne physique qui occuperait un terrain, et le terrain, il est communal. Sauf si c'était un foncier intercommunal, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, du coup, ça reste un dialogue entre la commune et des individus. Et puis, encore une fois, le territoire de Chambéry est assez diversifié, et le territoire de la métropole l'est encore plus, avec des écosystèmes et des contextes extrêmement différents. Et donc, il est fort peu probable que le dispositif tel qu'il a été imaginé, ou de manière très dans le détail, tel qu'il est implémenté par Chambéry, convienne à Saint-Cassin, au Bauges, à Saint-Alban. Voilà. Après, c'est chacun d'interpeller vos élus et pour voir s'il y a moyen. Alors après, c'est de manière très pragmatique ce qui avait été fait avec et ce qui est fait dans les communes où il n'y a pas de permis de végétaliser. On peut prendre possession des lieux ou demander est-ce que j'ai le droit. Et puis après, voilà. De toute façon, il y a des tas de situations un peu hybrides où des riverains peuvent. Voilà. Après, vous êtes libre de trouver la meilleure solution, mais les incroyables comestibles et d'autres s'autorisent quelquefois à passer outre toutes les. Voilà. Après, évidemment, on ne peut pas mettre d'obstacles ou de choses qui évidemment posera un problème de sécurité publique, ou voilà, si vous de mettre un grand arbre au milieu d'une rue, ça va pas marcher. Mais voilà, puis après, il faut savoir que dans les villes, alors même dans nos campagnes, il y a ce qu'on voit en surface, et puis il y a toute une infrastructure qui est énorme, qui représente une richesse de tuyaux, d'évacuation, d'aliments, d'eau, de câbles pour votre Wi-Fi, pour votre fibre. Voilà. Donc, on n'a jamais rien cassé dans nos villes, sauf à Chambéry, un petit moment à la moitié du XXe siècle. Mais on a capitalisé sur des infrastructures depuis les Romains. Et donc, on a une richesse sous nos pieds qui n'est pas que vivante, qui est avec beaucoup de choses techniques, humaines, qui nous permettent d'être contents d'être en ville parce qu'on a toutes ces facilités de robinets qui s'ouvrent et puis de déchets qui partent dans des tuyaux. Donc il faut bien penser qu'on a aussi tout ça et que certes on rajoute du vivant, mais jusqu'à présent on l'avait aussi, ça a été évoqué, on avait aussi écarté le vivant parce que les rats ils bouchent les égouts ou que sais-je. Voilà. Donc c'est des sujets d'usage qui sont importants. Donc on a juste essacé la carte des jardins urbains des incroyables comestibles. Alors après, on peut superposer des dizaines de cartes, ceux des jardins ouvriers, ceux des jardins publics, ceux des jardins privés semi-ouverts, des jardins de collectivité. Donc on a une trame végétale sur Chambéry qui est assez importante. Et donc effectivement, tout ce qui est espace public, espace privé, les interstices, toute cette trame, elle doit faciliter la vie et être au service de la vie et de la diversité. Et donc c'est extrêmement important. Et sur une commune comme Chambéry, je ne sais pas si l'exercice a été fait, mais quand on fait le travail sur la problématique un peu à la mode d'îlots de chaleur urbains, on s'aperçoit que au moins la moitié de ce qui peut compenser ou de ce qui va rajouter du végétal et de l'ombre et de l'évaporation, ce sont des terrains privés. Donc il y a un travail à faire par les collectivités pour aménager leurs espaces publics et leurs jardins publics, mais aujourd'hui les collectivités elles ont essentiellement des voiries et des espaces de circulation qui ne se prêtent pas systématiquement et en priorité à être végétalisés. Donc évidemment, il faut qu'on puisse traverser des espaces qui ne soient pas des fours et qu'on se prenne une bouffée de chaud à chaque fois qu'on traverse un espace public. Mais après, il faut que tout soit fait en cohérence avec les espaces privés, les espaces collectifs, les copropriétés. Il y a énormément de délaissés. Alors, on voit par exemple les gens de Carrefour, c'est le bon exemple. Eux, c'est des gens qui gèrent un supermarché. Et donc, ils veulent que leurs clients puissent se garer pour emporter les choses qu'ils vendent. Ce n'est pas des paysagistes ni des urbanistes. Donc, il faut trouver le bon dialogue pour que les encourager à aménager leur espace d'entrepreneur, de commerçant, pour que ça puisse correspondre à des volontés publiques ou privées enfin, de leurs clients. Donc, c'est un vrai dialogue à mettre en place. Ben, c'est jamais bien d'imposer. On peut commencer à discuter, et puis après, s'il faut imposer, ma foi, parce que des impositions, il y en a déjà. Il y a des impositions sur le PLUI, il y a des impositions sur tout un tas de choses de droit commun. Et puis après, c'est toujours pareil. Si vous rentrez en conflit avec quelqu'un, ça peut faire... voilà, si on est en conflit, c'est pas une bonne idée. Il faut plutôt être dans la négociation ou rappeler les choses qui s'imposent, justement.
Non, d'autant qu'il a y gagné, le propriétaire du magasin. Si aujourd'hui il dit, vous venez au magasin en pleine journée, et vos voitures, elles vont rester frais, et quand vous allez rentrer dedans, pas de clim et pas de truc, il y a peut-être un dialogue.
Ouais, alors ça, c'est un peu la déformation de la toute-puissance de quand on construit un bâtiment. Bah, effectivement, un bâtiment, si vous avez l'argent, vous pouvez le détruire, en reconstruire un autre, et vous arrivez à un résultat équivalent, parce que vous maîtrisez totalement. Par contre, détruire une forêt, la reconstruire, ça ne marche pas pareil. Et donc, il y a certains pays où, effectivement, où ils ont sacralisé, ou en tout cas, ils ont interdit, ou ils considèrent qu'effectivement, un être vivant ou un arbre qui a plusieurs décennies ou plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose d'intouchable, en tout cas, qui est prioritaire par rapport à une construction artificielle des habitants. Mais nous, on n'est pas encore dans cette logique-là en France. Il y a quelques règlements. Il y a un règlement sur le droit du sol qui correspond à... Voilà, la cartographie des espaces boisés classés, où là, effectivement, on n'a pas le droit d'enlever les arbres. Au Japon, un arbre, ils vont dépenser peut-être des millions d'yens, des millions de dollars pour aller le déplacer. Il y a des images qui traînent sur les réseaux sociaux. Et en Suisse, il y a des arbres, c'est strictement interdit d'enlever les arbres. En France, on n'est pas dans cette réglementation-là. Donc il y a à la fois une réglementation qui est relativement souple, parce qu'on est dans un pays libre, où on a de la place, où on peut effectivement couper son bois, donc tout ça c'est très bien. Mais quand on arrive un peu aux extrêmes, il y a un certain niveau de protection qui peut être mis en place. Donc ça, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est d'abord une négociation, une sensibilisation, et puis après, s'il faut imposer. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de démarches sur la cartographie des arbres remarquables, qui peut être faite pour sensibiliser. Ouais. Mais c'est sûr que les arbres d'alignement dans les villes qui peuvent, pour un certain moment, devenir dangereux ou être, du point de vue sanitaire, un peu délicat, il y a eu, sur Chambéry, beaucoup de débats sur des aménagements urbains, sur des transports en commun par rapport à la coupe ou pas de tel ou tel arbre. C'est effectivement un crève-cœur, mais voilà. Et sur les projets urbains d'un bailleur social, je peux vous dire que c'est sûr que arriver à considérer que le petit verger... est prioritaire par rapport à une restructuration du bâti et des logements sociaux, c'est pas gagné, quoi. Même si à chaque fois, les ingénieurs, on le voit pas forcément, mais les paysagistes et les architectes le disent, on les met sur les plans. Voilà, tel arbre, il est là, on essaye de faire le tour. Et puis après, j'en ai vu un, j'ai pas pris la photo, mais à Lyon, une villa avait été rasée et puis il y avait un arbre au milieu et du coup, ils ont construit la résidence tout autour. C'est-à-dire qu'il y a quand même techniquement un certain nombre de choses à faire pour que l'arbre, on puisse considérer qu'il va rester encore là les 10 ou 20 prochaines années, parce qu'on l'a un peu bousculé, on lui a enlevé tous ses petits copains autour. Donc voilà, ça reste des êtres vivants. Mais c'est une vraie question de priorité. Est-ce qu'on donne priorité au vivant qui a une valeur patrimoniale, une valeur sensible, ou est-ce qu'on donne priorité à la construction? Donc ce que vous pouvez faire très facilement, c'est ça, voilà, l'autonomie en salade verte.
Voilà, je vais appuyer sur... C'est vrai que quand on dézoome sur la question de... On peut se dire, bon, il y a un petit arbre en ville, il n'y a que quelques voisins attachés, et puis les promoteurs vont la raser. Mais quand on dézoome, voilà, à l'échelle nationale, et qu'on voit qu'il y a quelques rares zones humides qui restent en France, et qu'on a rasé, rempli, bouché 80 ou 90% de nos zones humides, et que malgré tout, il y a des projets dits d'utilité publique sur ces zones qui sont précieuses, quoi, qui sont... les choses les plus précieuses qu'on doit avoir en patrimoine écologique en France. Et pourtant, voilà, il y a des projets d'utilité publique dessus. Et voilà, la solution qui fonctionne aujourd'hui, c'est des solutions de lutte de terrain. On voit des ZAD comme à la Clusaz qui arrivent à protéger des zones humides parce qu'il y a des personnes très jeunes, des femmes qui se mobilisent et qui vont habiter le bois. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui s'attachent aux arbres, qui on essaye de diaboliser, mais c'est aujourd'hui la seule solution qui fonctionne. Pardon, oui, je mets le point sur ces personnes, mais c'est sûr que tous ceux qui luttent à toute échelle, dans toute place, dans tout lieu, ont leur utilité. Pardon.
Voilà.
Le second point, je vais essayer de rezoomer, essayer de vous enseigner quelque chose. En tout cas, il y a un syndrome, c'est un peu le syndrome du potager. qu'on voit apparaître chez les incroyables comestibles ou dans tous les jardins de particuliers, je dis le syndrome du potager, c'est pareil pour l'aménageur, mais c'est-à-dire qu'on va choisir une espèce, on va dire tu vas être ici et tu vas pousser là, et toutes celles qui vont pousser à côté, on va les tuer, toutes, ceux qui font du potager font ça. Et quand je vous explique qu'on doit apprendre à habiter avec la diversité du vivant, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait des plantes spontanées qui décident elles-mêmes de pousser là. Et quand on aura fait ce pas, on va dire qu'on va considérer comme un sujet et plus comme un objet ce qui va pousser devant nous. Pour moi, on aura fait un pas en avant. Mais
Oui, c'est là aussi, il y a encore degré. On a le degré zéro du jardinage de Daniel qui consiste à dire salade pousse ici, j'ai acheté la graine, j'ai acheté l'engrais qui va bien. Et donc en fait on reproduit un système industriel pour fabriquer un objet qui finalement est standardisé. Ou alors on peut peut-être planter la salade avec la graine et puis par contre si à côté il y a un truc qui pousse tout seul. Parce qu'effectivement en réalité nos grands-parents le savaient ou nos parents ou quelques-uns d'entre nous, 90% de ce qui pousse dans la nature est comestible. Les choses qui sont toxiques au sens vraiment qu'il ne faut absolument pas toucher ni manger, il y en a une forte forte minorité. Et dans la frange entre le toxique et le comestible alimentaire, il y a toute la zone du médicinal. Parce qu'en fait, il n'y en a quasiment aucune qui sont toxiques. C'est toujours un problème de dose et de mélange. Ce qui est vraiment toxique, dans la plupart des cas, c'est utilisé. En tout cas, ça peut avoir des usages pharmaceutiques. C'est ce qui se faisait avant. Les pharmaciens, avant, ils avaient un jardin et ils broyaient les plantes et ils faisaient eux-mêmes le remède avec les matières premières qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, tout ça est industrialisé et pris en charge par l'industrie pharmaceutique qui arrive à vous concentrer les principes actifs au bon moment, au bon endroit. Et puis vos médecins vous prescrivent les petites gélules. Mais à l'intérieur des petites gélules, les molécules, elles viennent du végétal, de la biotechnologie. C'est des petits microbes, des petites bactéries qui ont concentré des trucs qui poussent dans la nature. Donc vous pouvez basculer d'un jardin potager à un jardin qui laisse la place aux plantes spontanées qui vous permettent de vous sustenter. Mais après, ce que j'ai mis la petite châtaigne, c'est qu'effectivement, c'est sympa d'être autonome en salade, mais notre apport calorique de 1000 ou 1500 ou 2000 calories par jour, il ne vient pas de la salade. La salade, elle vous donne un petit peu de vitamines, un petit peu de sels minéraux et puis beaucoup d'eau. Mais ce qui va compter, c'est le pain. Et si vous relisez Rousseau, vous vous rendez compte que tout autour de Chambéry, il y avait d'immenses châtaigneraies qui avaient été entretenues pendant des générations, que je crois que les Romains avaient plantées. En tout cas, c'est un arbre qui nourrissait principalement les gens, puisque des châtaignes, c'est facile à faire. Enfin, ça pousse tout seul. Si on les ramasse avant les sangliers, ça se conserve relativement bien. Si on fait l'effort pour éviter qu'elles se fassent bouffer par les vers, on peut les garder pendant des mois. On peut les transformer en farine et vous mangez toute l'année avec. On peut aussi des patates, on peut faire du blé, mais pour nous, dans le terroir, l'écosystème de Chambéry, normalement, on devrait être sous le signe du châtaignier. Il y en a un autre qui est encore moins bien vu, mais c'est le chêne. Parce que on va encore quelquefois ramasser des châtaignes, mais les glaneurs et les glandeurs, c'est ceux qui mangeaient des glands. Parce que c'est un truc extrêmement nutritif. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez les goûter. Il y en a énormément de différents. Et il y en a qui sont très astringents, très amers, parce qu'ils ont plein de tanins, ils sont pires que de la mauvaise mondeuse. Et donc ceux-là, vous évitez de les manger, vous prenez un arbre qui a un goût un peu plus sucré, et après 3 ou 4 bains de bouillon, quand vous l'avez bien fait bouillir un peu comme les châtaignes, que vous avez jeté l'eau, vous enlevez toute l'amertume et l'astringence, et il vous reste des glucides, des pâtes, enfin voilà, des glucides qui sont les mêmes glucides que celles que vous avez dans le blé, dans les patates. Et voilà. Donc ça veut dire que l'autonomie alimentaire, puisque c'est un sujet aussi, ou en tout cas c'est un des usages qu'on peut tirer de la biodiversité autour de nous, c'est de la manger, qu'elle soit végétale ou animale. L'écosystème de base sur lequel on est posé, c'est un écosystème qui est capable de nous fournir des châtaignes et puis un certain nombre d'autres plantes qui tiennent au corps. Voilà, on peut aussi cultiver des pommes de terre, c'est sûr, ça a sauvé beaucoup de monde, et ça c'est encore le cas. Et voilà. Et c'est pour dire aussi que le jardin et le potager, c'est un potager de plantes annuelles qu'il faut régénérer toutes les années. Ce qui est super, c'est quand on arrive à avoir des plantes vivaces qui se régénèrent toutes seules, on a juste à les cueillir et à les utiliser, le jardin de curé. Et puis dès que vous avez des arbustes et des arbres qui vous donnent des fruits tout à fait spontanément, si vous avez un peu de soin pour eux, si vous les taillez, si vous les protégez d'un certain nombre de prédateurs, ben vous avez quelque chose qui fonctionne de manière autonome. Et ça, en ville, c'est possible, parce qu'en ville, on les a sous les yeux tout le temps, on peut s'en occuper un petit peu, il suffit juste d'y consacrer un peu d'énergie ou de détourner un peu de notre énergie pour entretenir le vivant qui est dans nos espaces de vie.
C'est bon pour le temps ?
Oui, pardon, allez-y.
Moi, je voulais rompre avec ton côté productiviste des végétaux. Voilà. Bien sûr. Je me suis focalisé sur le végétal parce que pour moi, c'est le végétal qui met en place les conditions pour que les insectes, puis toutes les chaînes trophiques qui sont liées à ça, puissent arriver en ville. Sans les plantes et sans les écosystèmes liés.
Oui, après, on aurait pu mettre en intro pour éviter cette frustration, on aurait pu peut-être mettre un cercle qui expliquait un peu un écosystème, comment il fonctionne. Et cet écosystème, il part du minéral, il utilise, enfin, il y a des champignons, des micro-organismes qui sont dessus. Après, il y a toutes les plantes, et au-dessus des plantes, il y a les insectes et les animaux. Donc, effectivement, c'est un tout. Et esthétiquement, on a surtout beaucoup de plantes en ville, et c'est ce qui est le plus facile à accepter. Mais on n'empêchera pas, au contraire, il faut faciliter la vie de tout le monde, des animaux et de la diversité des êtres humains aussi qui vont habiter et passer et profiter de cette ville. Donc c'est vraiment cette diversité. Ça, on l'a pas dit, mais il y avait tout un sujet par rapport à l'eau aussi, puisque pour reboucler par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'était dans la démarche ville perméable. L'eau, c'est la vie, et c'est quand même ça qui va donner un peu. Qui va être le facteur limitant et le booster de la vie. Mais donc, du minéral jusqu'à nous-mêmes, qui faisons partie du vivant, il y a toute cette chaîne dont il faut avoir absolument la diversité, et on ne peut pas, ça va venir automatiquement, on ne peut pas en enlever un. Tout est interdépendant, on ne peut pas enlever les microbes, par exemple, on ne peut pas enlever les micro-organismes, puisqu'en fait, le végétal vit dessus. Donc, tout va venir et toute la vie... fonctionne avec l'ensemble de la chaîne. Donc effectivement, merci de la remarque, mais les oiseaux, c'est eux qui sèment les graines, qui permettent aux arbres de pousser, etc. Donc il faut qu'il y ait tout l'ensemble.
On conclut rapidement, on a une minute. Donc le constat qui se fait aujourd'hui, c'est que dans la ville, il y a de la place, mais très peu, pour accueillir la diversité du vivant, qu'il y a des initiatives, mais c'est pareil, il y a une inertie générale qui fait que ces initiatives, quand elles aboutissent sur le terrain, ça fait vraiment des petites choses ponctuelles et qu'on a envie que ça aille un peu plus vite. Qu'on est dans un rapport toujours productiviste, qu'à ses travers, c'est-à-dire qu'on choisit des espèces et tout ce qui va aller à l'encontre, on va vouloir le tuer. En fait, c'est ce qui est amené aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des châtaigniers, si on a le prédateur du châtaignier qui est nécessaire dans la chaîne trophique, on va vouloir... Donc il y a toujours à peser dans la balance ça. Et... j'ai perdu le fil.
Non, mais voilà, c'est ce schéma-là que Jean-Alfredo avait dessiné pour la FNE, c'est que ça vous permet aussi de... Bon, il n'y a pas que de la productivité, il y a du sensible, de l'esthétique, du culturel. Et puis aujourd'hui, les urbanistes et moins les paysagistes, mais on dessine beaucoup avec des plans. Et aujourd'hui, on ne peut pas se limiter aux problématiques foncières, aux problématiques de plans. C'est important de raisonner en 3D et dans les dynamiques temporelles des saisons. Donc on a beaucoup de place quand on est en 3D. Quand on est bloqué sur le plan, en fait, si on se rend compte qu'on peut, vous l'aviez dit, quelqu'un l'a dit, étager les végétaux, avoir ce qu'il y a sous terre, ce qu'il y a en végétation basse, ce qu'il y a en canopée, les oiseaux qui passent et qui viennent prendre des fruits. Voilà. Tout ce système-là, il est dans une dynamique à la fois en 3D dans l'espace et dans le temps. Donc quand on comprend bien le flux de tout ça, c'est passionnant, tout cet accompagnement et jardiner la ville, c'est vraiment ça a vraiment du sens et c'est je crois ce qu'on essaye de faire, en tout cas l'élu en charge et à l'arrière là, c'est un peu l'idée qui est poussée par ces dynamiques dans Chambéry. En tout cas, je parle pas à leur place, mais je peux vous témoigner que les élus sont prêts à entendre toutes les propositions des habitants sur l'amélioration de nos espaces de vie.